Solers, dont j'espérais bien qu'un jour ou l'autre, il entrerait dans notre chaîne, sans savoir évidemment à quel moment ni par quel canal, puisque je vous le rappelle, nos témoins se cooptent librement. Mais la vie intellectuelle française est ainsi faite que Philippe Solers devait apparaître dans notre série de dialogues, si nous voulions que ceux-ci rendent compte aussi fidèlement que possible des débats d'idées dans notre société. Donc je remercie Pierre Bourjade d'avoir été son introducteur. Il est à peine besoin de présenter nos deux invités. Pierre Bourjade, je l'ai rappelé la semaine dernière, est né en 1927. Il est l'auteur d'une douzaine de romans, dont le dernier, La fin du monde, a paru il y a quelques mois aux éditions de Noël, et de quelques pièces de théâtre, dont deux vont être jouées prochainement au Théâtre Marie Stuart à Paris, cependant qu'une adaptation des Oiseaux d'Aristophane est donnée depuis le début de la semaine par Jean-Louis Barrault au Théâtre du Rond-Point. Votre inspiration, vous l'avez souligné au cours de notre précédent dialogue, est double, puisque votre intérêt vous porte à la fois vers la poésie, le lyrisme, l'érotisme, et d'autre part vers l'histoire et sa forme immédiate, qui est la politique. De Philippe Solers, on pourrait dire aussi, après tout, qu'il est à la fois un écrivain politique et un écrivain érotique, politique au sens où vos livres sont, entre autres, des chroniques du monde contemporain. Le dernier en date, Portrait du joueur, chez Gallimard, présentant, à travers l'histoire d'une famille bordelaise, un demi-siècle d'histoire de France. Érotique aussi, puisque ce même livre, comme le précédent, raconte par le menu des expériences sexuelles du narrateur. Mais je ne voudrais pas réduire votre travail à ces deux paradigmes. En fait, votre longue présence depuis 25 ans dans la vie littéraire française, je rappelle que vous êtes né en 1936 et que vous avez publié votre premier roman en 1958, avant de participer à la création de la revue Telle Quelle. La diversité de votre œuvre et surtout, me semble-t-il, votre volonté permanente de dépasser les genres et les classifications font qu'il serait absurde de vous ranger dans telle ou telle catégorie. Je dirais même que vous prenez plaisir à cultiver les contradictions, apparentes ou réelles. Et c'est, je crois, le sens de la première question que va vous poser Pierre Bourjade.
Oui, Philippe Solers, en effet, comme Thomas Ferenczi vient de le dire, vous êtes quelqu'un de très connu et par conséquent de très mal connu. Vous passez quelquefois pour quelqu'un d'un peu dogmatique. Et je crois au contraire que vous êtes quelqu'un de très indulgent, même, je peux en témoigner personnellement, de très bon. La bonté me semble une caractéristique de votre personne, alors que dans le milieu littéraire parisien, ce n'est pas forcément le sentiment le mieux partagé. Mais vous apparaissez comme un homme complexe. Et pour diviser un peu cet entretien, je voudrais partir de trois contradictions apparentes, je pense, apparentes, mais enfin, vous nous le direz. Contradiction en vous entre le théoricien et le joueur, contradiction apparente, je pense, entre l'homme qu'intéresse l'érotisme et le mystique, on peut dire, contradiction entre l'homme d'avant-garde et l'homme de tradition. Peut-être que ce thème nous permettra de déboucher dans le domaine politique. Alors, ma première contradiction, vous venez, comme on vient de le rappeler, de publier ce livre, Portrait du joueur, qui a en effet une chronique très brillante et un peu avec ce décousu qui est le décousu de la vie, qui raconte, je pense, tout à fait votre histoire. Le joueur, comment vous conciliez-vous le joueur et le théoricien ?
Eh bien, je crois qu'il n'y a pas en effet de contradiction entre le jeu et la pensée du jeu, entre la théorie et la pratique, et que pour qu'un jeu existe, il faut bel et bien qu'il y ait des règles, et des règles de pensée, et que plus ces règles sont pensées, et plus le jeu rebondit et se développe. Si je prends la métaphore, par exemple, du jeu d'échecs, on sait très bien que le joueur qui va jouer des parties interminables avec une grande concentration physique, nerveuse, et on pourrait dire même mystique parfois, certainement, dans l'appréciation de la complexité du jeu et dans le coup de génie qu'il faut parfois avoir dans les détails et dans le survol qu'on a de la partie et de toutes les parties possibles à laquelle cette partie peut se rattacher, est aussi et doit être un théoricien du jeu. Et même, on sait que parmi les grands joueurs d'échecs, comme Philidor en France ou Tartakovère et bien d'autres, eh bien, ils ont tenu à donner de la partie d'échecs telle ou telle trouvaille théorique, élégante le plus souvent, et la plus percutante possible, qui reflète non seulement leur longue expérience, mais aussi la solution qu'ils ont trouvée, toujours par le calcul, dans ce domaine. Les échecs, on en parle beaucoup en ce moment, et vous savez que ça va peut-être nous permettre d'ailleurs d'avoir cette conversation facilement, parce que les échecs, c'est le jeu des jeux, si on peut dire, et personne ne pourra dire que ça n'a pas un aspect politique ultra condensé, puisque la planète tout entière est, par exemple, en ce moment, fascinée autour du match qui n'en finit pas, qui a dû être annulé, brusquement, entre Karpov et Kasparov, et que ces deux joueurs, analysés en eux-mêmes, représentent tout à coup des forces considérables, qui sont des forces militaires, des forces idéologiques, et que quand on se faufile dans la biographie de ces joueurs, on s'aperçoit que, tout au fond, des enjeux presque métaphysiques sont là. Le joueur, la meilleure image qui me vient tout de suite, c'est le neveu de Rameau, par exemple, de Diderot, et ce café, qui était la Régence à l'époque, où Diderot dit, dans le neveu de Rameau, que... On y jouait et on y voyait le fameux Philidor. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de joueur d'échecs vraiment transcendant depuis bien longtemps, que ce soit les Russes ou les Américains, qui aient compris à quel point le jeu pouvait être à la fois sérieux et fondamental. Le rapport avec la littérature est plus fort qu'on ne pense peut-être, puisque un écrivain que j'aime bien, très sophistiqué, mais qui est Raymond Roussel, était un joueur d'échecs. Et d'ailleurs, il y a la solution du mat, du fou et du cavalier de Roussel dans son fameux livre « Comment j'ai écrit certains de mes livres ». Donc voilà, il n'y a pas de contradiction entre la théorie et le jeu. Alors si on passe à l'existence, je crois que quelqu'un aura le plus de chance pour jouer sa vie, sa mort, ses plaisirs et ses difficultés... dans la mesure où il aura la pensée de son jeu. C'est compris comme une contradiction, tout simplement parce que ça va contre une idéologie globale qui est celle de l'authenticité sans recul, de l'homogénéité sans distance, de la vraie vie qui s'opposerait à la pensée, etc., etc. C'est-à-dire contre une idéologie qu'on pourrait presque dire permanente et endémique, qui est celle de la pensée d'un côté, la vie de l'autre, la philosophie et la réflexion et l'invention de l'autre, etc. Malheureusement, le degré zéro est permanent de la spontanéité obscurantiste. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus ? Pas de grand musicien sans théorie musicale, pas de Jean-Sébastien Bach sans calcul sur la musique pour donner l'impression d'un jeu suprême. Tant qu'on n'aura pas oublié, si c'est possible, la pesanteur romantique, l'extraordinaire intoxication du romantisme, qui est presque une donnée, encore une fois, permanente de la vie en société, qui impose son point de vue, sa morale, ou sa pseudo-morale, eh bien, on continuera à penser que le jeu est incompatible avec la pensée.
Est-ce que cette idéologie spontanéiste et obscurantiste est plutôt une idéologie de droite, ou bien est-ce qu'elle traverse... les courants politiques.
Ah oui, je crois qu'elle, malheureusement, elle traverse tous les courants politiques. Elle est préalable à la politique. Elle est humaine, au sens le plus désespérant du mot, dans la mesure où elle est, je crois, ce qui persiste d'infantilisme, d'enfantillage, au sens négatif, parce qu'il y a un jeu de l'enfance et il y a une théorie du jeu dans l'enfance.
Je croyais que c'était une pierre dans le jardin de Nathalie Sarraute. Je suis heureux de voir que vous avez immédiatement repêché ce caillou.
Pierre Baudelaire dit le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Ça répond à votre question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut retrouver le jaillissement, la fraîcheur, le côté à la fois complètement irrationnel et de grandes sensations de l'enfance, mais il faut pouvoir le retrouver à volonté. Donc ça veut bien dire que la pensée s'exerce. Enfin, je ne remonterai pas jusqu'à Héraclite pour dire que la comparaison entre le temps et l'univers et puis le fait d'être un enfant qui fait l'enfant, enfin, c'est pas seulement un enfant comme ça, innocent, mais un enfant qui serait au comble d'une lucidité dans l'innocence, etc. Puis tous les exemples là, souvent là, peuvent défiler, les marionnettes de classe et tout ce que vous voudrez. Pour répondre à cet aspect de politique, je crois justement une bonne façon de redéfinir autrement la politique serait de voir qui est conscient du jeu et qui accepte de dire que la politique est aussi un jeu. C'est très difficile de faire avouer ça à la politique ou aux hommes politiques. Et d'autre part, il est bien évident que la donnée fondamentale de ce genre de position, ce serait l'humour. Et à ce moment-là, on trouverait aussi peu d'humour à droite qu'à gauche, ou autant d'humour, peut-être, parfois, à droite qu'à gauche, avec une, peut-être des exceptions plus notables à gauche. Oui, c'est un des grands problèmes, de savoir si la gauche peut se définir par rapport à l'humour.
Non, je pensais plutôt à l'anti-intellectualisme. Enfin,
L'anti-intellectualisme est aussi bien de droite que de gauche, oui. Et aux extrêmes, n'est-ce pas, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, on retrouve évidemment toujours cette accusation, ce soupçon porté à l'inauthenticité. C'est une vieille prédication qui n'en finit plus depuis le 19e siècle. Il faut être pur, authentique, identique à soi-même et bien enfermé dans un non-recul par rapport à soi-même. C'est-à-dire, c'est vraiment une définition contraignante de l'identité qui est évidemment, pour moi, le contraire de la liberté.
Mais Philippe Solers, tout de même, c'est vos premiers romans qui ont été salués dès leur apparition. Vos premiers livres étaient des livres d'émotion, de poésie. Et puis, on peut dire qu'il y a une période que M. Ferenczi rappelait, la création de Tel quel, et un effort théorique important qui d'ailleurs a compté, même pour ceux qui, j'en ai été à l'époque, se situaient contre. Donc déjà, cet effort théorique a eu cette importance dans les années 60-65 de provoquer une réaction. Et on ne peut pas dire tout de même que là, vous n'avez pas été un théoricien important, je crois, qui restera dans la littérature. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, avec vos derniers livres, Femme, Le portrait du joueur, vous revenez à une littérature existentielle qui, par des traits différents, puisque maintenant l'expérience érotique est là, rejoint un peu en tonalité vos livres du début. Je voulais savoir si en vous sentez ces périodes, la période du début, la période de la théorie, la période des romans d'aujourd'hui, comme trois époques bien différentes, ou si au contraire, vous avez toujours le sentiment de votre propre unité.
Oui, moi, j'ai un sentiment d'unité profonde et de cohérence et de tous les instants. C'est vrai qu'il y a eu une période où, disons, je me suis intéressé beaucoup à la théorie du jeu littéraire. Et donc, j'ai essayé de participer à des tas de combinatoires qui me paraissaient nouvelles, devoir être développées, surtout à cause de la stagnation du jeu antérieur. Alors, c'était une façon de moderniser le jeu. Et pour ça, il faut tenir compte des archaïsmes énormes qui, à mon avis, à l'époque, régnait dans cette région. Ce n'est pas par hasard si la crise, l'explosion quant au savoir, à sa transmission, etc., a éclaté en 68. C'est bien parce que ces archaïsmes étant accumulés et devenus insupportables, il s'en est suivi une explosion vite réprimée d'ailleurs, on a tout rebétonné très rapidement. Et là aussi, je dirais que par rapport à ce coup d'éclat, comme dit, je crois, Baudrillard, très bien, qui a été 68, c'est-à-dire qui ne cherchait même pas un accomplissement politique, mais qui devrait nous intéresser en tant qu'explosion pour l'explosion.
Qui était pour le coup recherche de l'authenticité, de la spontanéité. C'est le contraire de ce que vous souligniez.
Je ne crois pas, justement. Je crois que c'était très contradictoire aussi. Si on revenait à l'analyse de ce qu'a été le mouvement maoïste en France, qui n'a pas été analysé psychologiquement, mais qui a été rabattu tout de suite sur une réalité chinoise qui ensuite a été réévaluée, on trouverait une contradiction énorme entre, d'une part, au contraire, un hyper-théoricisme, et d'autre part, des attitudes libertaires ou très spontanéistes qui ont frappé tout le monde. Et c'est cette contradiction qui fait la complexité. Il y avait les deux à la fois. Vous savez, c'était vraiment une sorte d'école permanente de théorie, et en même temps, une école permanente de désordre, si on peut dire, école pour désordre. Ça a touché, ça a affecté toute une génération, justement. Et l'intérêt était là.
Est-ce que vous pensez que...
Même les situationnistes étaient des gens, à l'époque, qui étaient hyper-théoriciens, tout en étant d'un comportement qui se voulait le plus anarchique possible.
Est-ce que vous pensez que tel quel, à son origine, prophétise en quelque sorte et annonce 68 ou que c'est dans deux ordres différents qui se sont
rencontrés? Je crois que ça fait partie d'un ensemble de choses très vastes qui annonce en effet 68 et qui est représentatif de ce qui a eu lieu à l'époque. Et alors, comme nous sommes dans une période où il est de bon ton de tirer un trait très rapide sur ces 20 ans, 60, 80, enfin, qui auraient été 20 ans abominables, 20 ans d'imposture intellectuelle, 20 ans de duperie, et 20 ans d'erreur.
Jean-Paul Aron,
c'est pas, non, Jean-Paul Aron, qui a un livre très brillant et qui a le mérite d'être drôle et d'avoir de l'humour sur la question. Ça, j'aime plutôt. Mais, je parle de ce qui se dit, de ce qui s'écrit très souvent dans les éditoriaux de presse, dans le journalisme, au sens, alors sans humour, et comme une vérité établie. Il y aurait eu 20 ans d'aberrations, d'impostures diverses, même peut-être organisées par on ne sait quel chef d'orchestre. Et puis, il faudrait se débarrasser de tout ça pour retrouver en effet toujours cette fameuse authenticité qui serait là et qui attendrait d'être vécue. Alors je crois que ça, c'est un mouvement profondément réactionnaire. Parce qu'on ne fait pas l'histoire à coup de, on se débarrasse de tout ce qui a eu lieu et on revient à la chose en soi. Donc moi, je reste très fidèle à tout ça.
Le fait que Jean-Paul Aron dénonce une théorie comme imposture lui donne au contraire des caractères immédiats de réalité.
Je vous laisse la responsabilité. Non, je crois qu'on peut ironiser, il faut toujours contester tout. Je crois qu'un certain mouvement actuel de dépréciation de tout ce qui s'est fait à l'époque a un caractère politique évident, que je peux vous traduire par la chose suivante, à savoir que la gauche, ses fonctionnaires, ses représentants idéologiques, a souffert probablement plus que nous ne l'avons cru, nous, intellectuels, ou écrivains à l'époque, a senti ça comme une entrave à son accès au pouvoir, et ensuite a été déçu, dépité même, je dirais, de ne pas rallier cette intelligentsia supérieure, comme dirait Régis Debray, à la construction de ce que la gauche voulait faire comme réalisation politique en France, et que donc il y a une sorte de polémique à ce niveau-là.
Je comprends pas. Qu'est-elle considérée comme une entrave?
L'attitude des intellectuels entre 1960 et 1980. C'est-à-dire ces mouvements gauchistes, cette irresponsabilité, encore une fois, ce foisonnement qui ne voulait pas aboutir, être rangé en ordre pour faire de la politique sérieuse.
Tiens, bon, Jeanne. Je pense qu'on peut passer maintenant au second volet de notre entretien. Tout à l'heure, votre prochain invité, Hector Bianciotti, quand elle a dit qu'on allait soulever cette contradiction dans votre œuvre, et peut-être dans vous, entre l'ascétique ou le mystique et l'érotique, a dit « mais c'est la même chose ». Je pense en effet que vous n'aurez pas de peine à lever cette contradiction, mais enfin, pour certains lecteurs, elle peut apparaître. Et en lisant ces jours-ci votre dernier livre, Portrait du joueur, j'étais en effet étonné par à la fois l'intensité du passage érotique qui, par moments, frôle l'obscénité. Pour moi, c'est un compliment parce que je crois que l'érotisme, s'il s'exprime avec sincérité, ne connaît pas sa limite. Et on voit bien dans votre livre que vous portez l'écriture et l'expression de la réalité à sa limite. C'est une grande caractéristique de votre œuvre.
Je ne sais pas si la sincérité est une vertu, Philippe Soler.
On va voir, il a répondu sur ça. Et alors, l'opposition entre cela et évidemment, on sent bien dans votre œuvre la source mystique, la source de l'amour pur. Et dans votre œuvre apparaît cette dualité, que je voudrais que vous parliez sur cette contradiction apparente.
Oui, là encore une fois, je crois que dès qu'on parle de contradiction, on met en doute la sincérité de quelqu'un. Parce que s'il maintient ses contradictions et des attitudes contradictoires, c'est donc qu'il est divisé. Et comment quelqu'un de divisé pourrait-il être sincère, puisque la sincérité s'exprime d'une seule voix, d'un seul tenant, et sur un seul sujet, fidèle à lui-même.
En bon marxiste, je vous dirais que c'est la contradiction.
Ce qui m'amène immédiatement à ressortir toute la bibliothèque littéraire, en somme, qui témoigne de la duplicité nécessaire à l'accomplissement des œuvres d'art. Mais pour en tenir simplement à Diderot, toujours lui, le paradoxe du comédien, je vous dis ça, et immédiatement, nous avons ce texte formidable, le premier dans l'histoire qui pose justement la conscience moderne dans sa contradiction, et qui montre bien, parce que c'est un texte qui va beaucoup plus loin que qu'un simple écrit sur le théâtre ou sur l'art de jouer, et qui porte bien la marque de cette nouveauté considérable qu'est le fait de pouvoir prendre l'émotion à son plus haut niveau et dans sa plus grande force en étant celui qui reste froid par derrière, ce à quoi n'arrivera jamais quelqu'un qui croit exprimer l'émotion en elle-même sans la pensée, c'est toujours le même problème. Et alors, érotisme et mystique, bien entendu, je ne suis pas le premier à qui arriverait cette constatation toute bête que ça se rejoint. De ce point de vue, je reste assez fidèle à un écrivain considérable du XXe siècle français qui me paraît devoir être lu et relu, que j'aime beaucoup, qui est Georges Bataille, qui a dit là-dessus des choses que tout le monde connaît. Pourquoi est-ce que c'est pris pour une contradiction? C'est ça plutôt le problème. Eh bien, parce que je crois que c'est toujours la même spontanéité obscurantiste qui veut qu'il y ait d'un côté des choses du corps, du sexe, et qu'elles soient en général soit silencieuses, soit au contraire exhibées mais soigneusement parquées dans leur endroit toléré, comme nous le voyons dans notre société, et puis qu'il y ait de l'autre, la vie, de l'intériorité, de l'âme, et tous les problèmes métaphysiques qui s'y rattachent, mais qu'il ne devrait pas y avoir la révélation que l'énergie que l'on prend pour penser les choses sublimes est prise tout simplement aux choses les plus basses et les plus troubles qui relèvent de la sexualité. Je trouve extraordinaire que, plus d'un siècle après Freud, on en soit encore à se demander si vraiment ces deux aspects de la vie humaine communiquent, alors que c'est d'une évidence totale, mais peut-être qu'il a fallu très longtemps à l'humanité avant de penser que la Terre tournait, quand Galilée a eu le courage d'en émettre l'hypothèse. Il faut peut-être très longtemps avant que des choses vraiment étonnamment évidentes deviennent monnaie courante. Il y a toujours une lutte très sévère entre les partisans de l'ancien monde et ce qui surgit. Nous voyons ça tous les jours. Il est extravagant de penser que des gens sans même s'être renseignés, sans même avoir vu le film, sans même savoir de quoi il s'agit, se précipitent comme des papillons hypnotisés pour déchirer les affiches du « Je vous salue Marie » de Godard, par exemple. C'est tout à fait impressionnant, en plein 1985, et ça laisse penser que c'est vraiment un vieux problème de l'humanité, que dès qu'on y touche, on suscite en effet quelque chose comme un scandale ou comme une gêne, un malaise profond. Alors moi je crois que essayer de se mettre dans la vérité de l'érotisme, ce qui revient à dire qu'on est par rapport à son corps et à ce qu'il traverse, à savoir cette affaire sexuelle permanente, essayer de se mettre par rapport à son corps dans une sorte de vérité expérimentale, c'est la même chose, exactement la même chose, que de prendre par rapport à toutes les idéologies, à toutes les ruminations psychiques, une attitude qui s'intéresse, oui, c'est vrai, à la métaphysique en général, à la mystique en particulier, laquelle, chez moi, elle est très claire, c'est pas du tout n'importe laquelle, je ne sais pas, de l'orientalisme, c'est pas le bouddhisme, c'est pas le yoga, c'est le catholicisme, ça je le dis très franchement, et le catholicisme paraît justement le lieu étonnant, formidable à travers les siècles, à travers toutes ces peintures, cette musique, toutes ces expériences tordues, biscornues, étranges, où se dit de la façon la plus nette et la plus profonde, la plus complexe, cette relation entre l'érotisme et quelque chose qui est bizarrement organisé d'ailleurs, parce que seulement dans le catholicisme on trouve Dieu organisé comme ça. Enfin, c'est vraiment très étonnant. Tout ça me passionne, alors ça m'intéresse. Et la théologie me paraît un continent sublime, et tous les livres de la tradition érotique, qui est quand même une tradition assez française, je voudrais insister là-dessus, c'est en français que se seront écrites les choses érotiquement les plus fabuleuses, comme si les Français étaient délégués à l'observation du nu verbal, et du nu plastique aussi, parce qu'il y a des grands nus dans l'histoire de la peinture. Par exemple, l'Olympia de Manet, c'est un nu comme on n'en avait jamais vu. C'est donc une sorte de responsabilité, je dirais, française. Et là, je vous cite le XVIIIe siècle, et puis vous prenez tout ce que vous voulez dedans. Et il n'y a pas de contradiction. C'est ça, ce serait peut-être ça, l'époque moderne. Il n'y a pas de contradiction entre ça et une certaine méditation sur Dieu. Et là, j'aime bien citer cette phrase de Balzac qui fait dire dans la Duchesse de Langeais à un personnage, mon bijou, c'est la princesse qui parle à la duchesse. Mon bijou, il n'y a rien de plus calomnié en ce bas monde que le Dieu et le XVIIIe siècle. Et Dieu et le XVIIIe siècle ensemble, accusés d'être des agents de subversion, je trouve que c'est très étonnant.
Est-ce que c'est vrai aussi du catholicisme d'aujourd'hui, du catholicisme du XXe siècle ?
Le catholicisme du XXe siècle est engagé, en effet, dans une partie mondiale très, très formidable. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer dans le catholicisme telle ou telle période. Il y a des périodes évidemment très fastes. Quand je pense au catholicisme, je pense à son explosion baroque, bien sûr. C'est qu'il reste le cœur énigmatique de la culture occidentale, c'est-à-dire de la culture tout court. Bien sûr, je pense à Rome, je pense au Bernin, je pense à Saint-Pierre, je pense aux rafales de Metz, aux dizaines, aux douzaines, aux centaines d'assomptions et tout ce que vous voudrez, qui m'enchantent, ça me repose et ça me plaît. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tunnel énorme. On ne sait pas ce que... Il y a deux hypothèses. Ou bien le catholicisme est fini, se survit péniblement dans une histoire qui le nie, qui le niera de plus en plus, ou bien au contraire, il est là... comme avec une ressource dont personne n'aurait cru qu'il pouvait lui être intrinsèque, et alors petit à petit, il sera peut-être un lieu de récapitulation historique fabuleux. Moi, c'est plutôt mon hypothèse.
Est-ce que le pape actuel reflète cette éventuelle renaissance, ou n'est-il qu'un homme de médias ?
J'étais à New York en 1978, lorsque le pape Jean-Paul II a été élu. Et je me rappelle très bien le moment où, ouvrant la télévision américaine, j'ai vu tout à coup ce prêtre qui était là, qui parlait anglais, avec un journaliste américain. Ça m'avait paru curieux qu'un pape parle anglais. Alors, en effet, irruption dans les médias du pape. Irruption dans les médias, c'est-à-dire c'est un pape qui fait une interview en anglais facilement. Après ça, je vois des gens le soir, à New York toujours, 78, et des gens informés, qui faisaient de la politique, philosophe, et je leur dis, ah, mais c'est extraordinaire ce qui vient de se passer, on vient d'élire un pape polonais, ça, c'est formidable, ça va changer complètement le jeu. Et ils me regardent tous en me disant, bah, oui, pourquoi, quoi, vraiment ? Bon, c'est tout.
Vous apparaissez dans ces déclarations comme un esprit très religieux, d'ailleurs, on s'en doutait à lire votre œuvre. Je voudrais poser une question très simple, est-ce que vous avez la foi ?
Je crois.
Une autre question, alors, sur les femmes. Dans Femmes, vous montrez les femmes un peu comme des objets de plaisir.
Ah, pas seulement des objets de plaisir, non. Ce sont des sujets en pleine évolution, oui, en pleine mutation, avec des contradictions remarquables.
Oui, c'est un raccourci. Dans Portrait du joueur, au contraire, Sophie, je crois, Sophie apparaît comme quelqu'un qui prend beaucoup d'initiatives et dont vous êtes par moments l'objet. Est-ce que vous pensez que la femme d'aujourd'hui surmonte comme ça d'un mouvement naturel la contradiction dont nous venons de parler ?
Elles sont très contradictoires. Puis ça, moi, je dis jamais la femme. Hein.
Oui.
C'est-à-dire, pourquoi j'ai appelé Sophie dans le portrait du joueur ? Parce que, d'ailleurs, aucun critique ne l'a remarqué, mais ça me paraissait pourtant tout à fait évident, c'est que le roman, la philosophie française du XVIIIe siècle, a un personnage central que vous retrouvez partout, au point même qu'on pourrait dire qu'il y a une question de Sophie. Il y a des thèses là-dessus, c'est le personnage de femme du XVIIIe siècle français, qui s'oppose à quoi ? À l'idée de la femme du romantisme allemand, de la philosophie allemande, de la réforme, etc. Bon, c'est vraiment très... Alors, je crois qu'en effet, il y a eu des tas d'aventures qui se sont passées dans l'ordre de la liberté féminine à ce moment-là, et qui peuvent éventuellement revenir après un long tunnel qui serait celui... du puritanisme du XIXe siècle et de l'appropriation politique des femmes à on ne sait quelle réalisation sociologique. Mais c'est vrai qu'on parle peu souvent des initiatives ou des plaisirs que les femmes peuvent se donner et auxquels, personnellement, je ne trouve rien à redire. Bien au contraire.
Pierre Bourgeat, vous aviez une troisième contradiction.
Oui, enfin, je pense qu'on l'a abordé tout au long de cet entretien, puisqu'en effet, vous apparaissez dans votre œuvre et par ce que vous avez dit aujourd'hui, comme quelqu'un qui est très à l'avant-garde, c'est-à-dire qui est toujours un peu en avance, je pense, dans le mouvement des idées, qui dépasse toujours ce qui est en train de se faire ou de se penser, et en même temps comme un homme de tradition, de grande culture et d'une culture ancrée dans certains domaines. Et je crois que les questions que je voulais vous poser sur ce point, vous y avez répondu. Je voudrais savoir en pratique, alors, sur un plan politique, comment vous vous situez politiquement aujourd'hui, en 1985, à la troisième année de la gauche. Vous avez fondé une revue il y a quelques mois, L'Infini, et dans le premier encart par lequel vous situiez L'Infini, vous notiez que l'écrivain est un homme d'opposition.